sur les. Non, c'est, il est énorme, celui. Mais il est mort.
Il paraît.
Non, il est sur une île.
Avec Elvis Presley.
Avec Elvis Presley et Coluche.
Elle n'a pas le temps de se faire chier. C'est qui le meilleur batteur.
À chercher sur Facebook, alors, batterie. Sur Marketplace, alors, qui fait de la batterie.
Yann de Lille. Intéressant, hein, franchement.
Bonjour et bienvenue sur Potion, le podcast qui mélange potes et passion. Aujourd'hui, nous allons parler tournée, concert et certainement sexe, drogue et rock'n'roll. Il est batteur, prof de musique et presque doyen de l'humanité, mais je le connais surtout comme étant Yann de la Salle. Bonjour Yann.
Bonjour, ou plutôt bonsoir.
Comme d'habitude, je suis accompagné de celui qui a besoin de ses deux mains pour tenir son micro. Bonjour Benjamin.
Bonjour. Oh, attention le micro.
Comment allez-vous, messieurs?
Tu peux me tutoyer.
Tu peux me tutoyer.
Moi ça va, bonne année.
Bonne année. Surtout la santé, parce que c'est important la santé.
Alors, premier épisode de l'année.
Qu'on enregistre, mais
on ne sait pas quand il va le passer.
Quand on va le passer, donc
peut-être en 2025.
Ouais, mais ce sera quand même le premier d'année 2025. On fait du futur.
Donc on va parler tournée.
Moi, j'ai entendu sexe à un moment, donc je suis content.
Enfin, un sujet que tu maîtrises, à peu près. Yann, tu vas nous parler un petit peu de toi pour qu'on.
Ah ben, il est pas. J'adore ça. Pourtant, il n'est pas couvreur.
Ok.
Putain, c'est un podcast sur l'humour en fait, sur les blagues nulles.
Oui. Voilà. On devrait le faire.
J'ai été invité. Merde.
On a quand même un auditeur fidèle qui s'appelle Sébastien. Oh, donc on lui fait un bon big up. Okay. Il me dit, bah non, mais attends, je vais pas écouter ça dans le métro parce que si je chope une barre devant tout le monde, et donc ça veut dire qu'il rigole à des blagues, sûrement aux miennes. C'est quand même.
C'est vrai que le premier de chaque mois, il nous réclame, il dit bah alors, il arrive quand? On fait ce qu'on peut.
Voilà. Donc bon, là, ce sera pour lui.
Tu vois, on sait qu'on fait ça au moins pour une personne et en vrai, ça suffit.
C'est clair.
Oui, si tu peux nous faire un peu ton parcours, parce que même moi, je le connais pas, ce qui t'a amené. Bon, déjà, tu fais de la batterie, t'es un musicien, tu fais de la batterie, tu donnes aussi des cours de batterie. Est-ce que. Comment t'en es arrivé là? Quand est-ce que t'as commencé la batterie? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'enseigner aussi? Un peu tout ce parcours. Est-ce que t'as fait des études dans la batterie? Ça existe.
Tout bêtement, moi, c'est mes parents qui m'ont foutu à l'école de musique de la ville où j'étais quand j'avais 5 ans. Et donc je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans. Et j'ai fait pas mal de trucs différents. J'ai commencé avec de la flûte à bec.
Okay.
C'est pas sexy, mais voilà. Ouais,
mais tu tapais sur les autres avec la flûte à bec.
Non, mais
je t'ai dit, c'est top.
J'avais 20 en cours de flûte plus tard, forcément.
Et est-ce que pendant un été, un camp de vacances, tu te les rentres dans la chambre?
Non, c'est la flûte traversière.
Pardon.
La flûte à bec, c'est pas pareil.
Oui,
c'est plus gros. voilà, j'ai fait ça parce que je voulais faire du hautbois, parce que en fait, j'étais gardé par une nourrice dont la fille était au conservatoire et répétait ses morceaux pendant que j'étais là. Et voilà, je trouvais ça cool. Donc après, je suis rentré dans l'école de musique en hautbois, j'ai fait de l'orchestre. Et quand j'étais à l'orchestre, au fond, il y avait la percu et je trouvais ça cool. Parce que moi, à l'orchestre, au hautbois, j'étais vraiment au tout premier rang, à côté des nanas, à côté du chef d'orchestre. Et il y avait vraiment un côté soliste que j'aimais pas trop, puis j'étais pas hyper fort, il faut le dire. Et j'ai trouvé que la percu, c'était cool. Donc j'ai commencé la percu plus tard. Je devais avoir 11-12 ans au collège. Et c'est vrai que mon père aussi m'avait dit un jour qu'il aimait bien la batterie. Puis on avait vu, j'avais vu un documentaire sur un Vanessa Paradis. Ça fait longtemps, mais et on la voyait faire de la batterie pendant. Elle était en tournée et à un moment dans la journée, elle se mettait à la batterie, elle jouait un truc et ça avait l'air tellement simple, tellement facile que ça m'a donné aussi envie d'essayer. Donc à l'époque, c'était pas de la batterie, c'était de la percussion. Et donc j'ai commencé
la batterie n'était pas encore inventée.
si, non mais en fait classes de batterie, il y en a pas beaucoup, ça n'existe pas depuis très longtemps. C'est la percussion classique dans laquelle il y a la batterie. Donc moi, j'ai commencé la percu classique vers 11-12 ans, où j'ai commencé la batterie à ce moment-là, mais j'ai fait aussi à ce moment-là du xylophone, puis après des timbales, du vibraphone, du marimba, etc. etc. Et puis bah, après, j'ai continué, j'ai arrêté le hautbois. Comme c'était mon deuxième instrument, en fait, j'ai avancé beaucoup plus vite que quelqu'un qui venait commencer l'instrument tout de suite. Tu vois. J'avais, beaucoup de... J'avais des bagages théoriques de solfège et tout ça. Donc j'ai avancé hyper vite. Ce qui fait que ça m'a motivé à continuer. Et puis après, après le bac, j'ai voulu me lancer dans la musique. Donc je suis entré au conservatoire après le bac. Et là, j'ai fait de la percu classique donc jusqu'au bout. Donc j'ai eu ce qu'on appelait à l'époque une médaille d'or de percussion classique. Et j'ai fait la batterie jazz au conservatoire aussi, dans un autre conservatoire. Et là, je suis allé au bout aussi, mais ça m'a pris plus de temps parce que j'ai vraiment commencé la batterie quand je suis arrivé au conservatoire et c'était après le bac, quoi.
D'accord. Mais ça a toujours été très scolaire, en fait. Ouais, en fait. Contrairement à par exemple, à Emilien qu'on a reçu.
Ouais, c'est ça.
Lui, il est tombé dedans et puis il a tout acquis
ouais.
lui-même.
En fait, il y a deux. Depuis que je fais de la musique, j'ai vraiment. Il y a deux grandes écoles dans les musiciens. Il y a des gens qui n'ont jamais rien appris et qui sont professionnels de ça. Et moi, je fais partie de ceux qui sont cons. Enfin. Ça dépend de quel point de vue tu te places, mais en tout cas, voilà, quand tu veux faire du
travail,
quand tu veux faire avocat, tu fais du droit. Quand tu veux faire médecin, tu fais médecine. Moi, j'ai voulu faire musique. Je suis allé au conservatoire bêtement.
Et après, tu as la troisième catégorie, comme moi. J'ai jamais fait et je suis nul, tu vois.
Ouais.
Même si j'apprends, d'ailleurs.
Si tu veux avancer dans un truc, moi, je me suis dit, tiens, je vais aller à l'école où on apprend la musique. Ouais. Et donc, c'était effectivement très scolaire. Et voilà, donc je suis allé au bout du conservatoire. Et à la fin du conservatoire, donc pour revenir à ta question sur la pédagogie, le premier truc qu'on te propose quand tu sors du conservatoire avec une médaille d'or, c'est un poste de prof.
Au conservatoire ?
Non, pas au conservatoire, aux alentours. Parce que pour être prof au conservatoire, au vrai conservatoire, il faut un gros diplôme parce que tu as un peu de responsabilité, parce que les étudiants sont là pour devenir professionnels.
C'est-à-dire que genre faut être si tu veux être prof au conservatoire, faut avoir fait des études de si tu es super bon, je dis n'importe qui, genre un super bon chanteur, il peut pas être prof en fait parce que il a pas fait les études.
Il faut avoir une idée de comment ça marche. Si tu vois genre on en revient à Emilien, il est très bon mais est-ce qu'il est capable d'expliquer à quelqu'un comment ça marche? Je crois pas
Pour lui c'est tellement naturel qu'il saura même pas l'expliquer en
fait.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Il faut vraiment se poser des questions sur le corps, sur puis la théorie, dans quel sens tu apprends les choses. Et ça, tu l'apprends qu'à l'école.
Et puis après, genre même lire une partition.
Voilà.
Y en a, je pense, ils savent même pas. C'est genre.
Ouais.
Et j'avais un YouTuber qui faisait ça. Genre après, c'est peut-être du fake, hein, mais genre il jouait du piano. Et puis t'as les gens qui viennent. Ah, tu peux jouer ça. Il écoute le téléphone à l'oreille. Il fait il fait deux notes, trois notes, hop, et il joue le truc. Tu vois ?
Ouais, non, ça c'est possible. Ouais.
Et ça, non, mais je veux dire, ces gens-là, ils savent peut-être pas lire une partition.
Ouais.
Par contre, ils savent jouer instantanément, comme ça, à l'oreille.
Ouais, c'est ça. Ils ont une bonne oreille et puis ils connaissent l'instrument. Ouais, c'est carrément possible, ça. Hein. Moi, d'ailleurs, j'ai une grosse partie de ce que je fais et beaucoup à l'oreille. J'arrive à faire du piano et de la guitare sans partition, bien plus à l'oreille qu'avec une partition.
Et il y a des partitions de batterie ?
Ouais, bien sûr.
Parce que ça ressemble, parce que tu fais pas de notes.
Non. Alors, en fait, ce qui est différent, c'est juste que sur une vraie partition, tu as une clé de sol ou une clé de fa. Enfin, ça indique que chaque rond est une note, une hauteur de son. Sur une partition de batterie, il n'y a pas de clé de sol. C'est une note. Donc, c'est une nomenclature en fait. Ça veut dire que cette note là ici, ça correspond à cet instrument là.
D'accord.
Et donc, c'est pas des hauteurs de son. C'est vraiment que du rythme. Et donc, tu suis la partition rythmiquement, quoi.
Mais là plusieurs... où il y aurait un mi, par exemple, toi, c'est la caisse claire.
Exactement.
Là où il y aurait un machin, et tu la lis comme ça, quoi.
C'est
tu
ça.
Sais que chaque fois que tu vois un point dans cette ligne-là, c'est là. Et...
Ouais, c'est ça.
Ok.
Ouais, c'est vraiment.
Ouais, comme les jeux sur iPad, tu vois les trucs qui descendent là. Moi, là, j'arriverai, tu vois.
Ouais, c'est ça. Ça ressemble.
Sauf que là, c'est se lit en livre. Putain. Horrible.
C'est ça.
Chaud.
Et donc là, tu disais, quand tu sors du conservatoire, t'as avec une médaille d'or, t'as obligatoirement un poste, mais c'est un truc genre, c'est un contrat avec l'État du conservatoire qui dit non, qui dit...
Non, non, pas du tout.
Comme une récompense
Tu sors de là et puis, ben... en fait, ce qui est bien aussi dans le conservatoire, dans les écoles, c'est que ça crée ton réseau. Ton réseau d'élèves, les professeurs que tu vois, que tu côtoies assez souvent, qui sont aussi profs dans d'autres structures et qui entendent parler de ben, y en a un qui s'en va, il faut trouver quelqu'un. Et il faut souvent, on fait souvent appel à des petits jeunes au départ. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu mon premier poste. Parce qu'en plus, voilà, pour donner le premier cours, il fallait minimum une médaille d'or. Et moi, on m'a proposé ça. J'ai dit, ben, OK, je n'avais pas de boulot spécialement à l'époque. Donc, ça a été mon premier taf à la musique, dans la musique. Et bah, finalement, je suis resté dans ce truc-là. Mais ce n'est pas du tout, je ne me suis jamais dit, je vais au conservatoire pour devenir prof. J'ai envie d'enseigner, c'est génial, vive l'enseignement, la pédagogie, tout ça. Ce n'était pas du tout cette optique-là. Quoi.
Toi, tu as fait de la musique pour devenir musicien professionnel ?
Ouais.
Tu t'es dit, moi, je veux faire des concerts. Enfin, jouer ouais. Ou de l'orchestre, peut-être.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je voulais jouer, je ne voulais pas spécialement... enseigner, mais en fait, dans les conservatoires, il y a quasiment 95-99% des élèves qui sont à un moment qui donnent des cours. Et maintenant, depuis quelques années, dans les conservatoires, il y a une section pédagogique où tu apprends la pédagogie pour donner des cours. Tu vois,
d'accord.
C'est vraiment
après,
inclus dans le truc.
La finalité d'un musicien ou d'un chanteur, je pense, c'est quand même de faire des concerts. Enfin, je pense pas que c'est d'enseigner comme un prof, tu vois.
Ben, ça devient de plus en plus courant que justement, donc ces départements de formation pour être prof deviennent importants parce que ben, on sait que tu vois, sur, je sais pas, sur 100 musiciens, il y en a peut-être y a très peu qui vont faire des grandes carrières
oui.
Et il y en a beaucoup qui vont faire une petite carrière oui. Et à côté donner des cours. Oui. Et donc. Forcément.
Oui, mais je veux dire le rêve, enfin pas le rêve, mais ils font ça parce que il faut vivre et manger, tu vois, on va dire.
Ouais.
Mais peut-être que musicien, lui, il préférerait être dans un concert ou dans un truc, non ? Ou lui, il se dit, comme un prof d'université ou chercheur, genre, lui, il veut juste calculer, tu vois. Il veut pas spécialement.
Bah, en fait, dans la musique, et ce qui est encore plus compliqué dans la musique classique, c'est que pour être vraiment faire une carrière genre de soliste, c'est encore plus rare ouais, que... Plus rare. Tu vois, il y en a un sur un million. C'est comme un footballeur professionnel, ouais, tu vois. C'est vraiment des gars qui sont vraiment au-dessus du lot. Et il y en a très, très peu. Moi, j'en connais pas, tu vois. Mm-hmm. J'ai côtoyé beaucoup de gens qui font de la musique classique. Ils sont dans des orchestres maintenant, mm-hmm. des orchestres professionnels, okay. Qui sont très bons, hein, mais ce sont pas des solistes...
À
part entière. Donc, ils jouent beaucoup, mais ils jouent dans des orchestres philharmoniques où ils sont 50, 60, tu vois. Ils sont au milieu du truc... Et c'est un truc qui est vachement bien. Mais voilà, ta prétention, on va dire, elle est moindre.
C'est vrai qu'on ne connaît pas un soliste connu. Enfin, on n'est pas dans le domaine non plus. Mais
non.
Des chanteurs, tu vois, on en connaît plein. Ou des solistes ou musique classique. Ou...
Tu connais des... Pareil, genre un batteur ou un guitariste. Tu en connais certains de groupes. Mais même genre des batteurs professionnels... qui serait...
batteur pro, quoi.
Bah, enfin, qui batteur pro, mais que dans...
Indépendant, on va dire.
Ouais, qui accompagne juste des chanteurs très, très connus. Moi, je n'en connais pas, quoi.
Non.
Mais moi, ou que ce soit même guitariste ou quoi que ce soit, juste un mec qui est censé être très, 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 très bon en guitare et qui fait que ça pour d'autres, je n'en connais pas, moi.
Moi, je connais Alex.
Ouais.
Bah, et le batteur, je connais Yann.
C'est un peu ce qu'il fait, c'est un peu ce que je fais, sauf qu'on... On ne le fait pas pour des gens hyper connus. Après, c'est aussi un truc de territoire. Si tu es à Lille, et, si tu veux faire ça, il faut être à Paris. Tu ne fais pas ça à Lille, tu fais pas ça à Bordeaux, tu fais ça à Paris. Quoi. C'est là-bas. Mais le problème, c'est qu'à Paris, tout le monde va là-bas. Il y a
le marché est inondé.
C'est un truc de fou. Et puis, c'est vraiment le plus fort. C'est un des championnats du monde, de la batterie, de la guitare, du sax. Quand tu vas dans les jams à Paris...
Et après, celui qui réussit, mais ça, on en avait déjà parlé dans l'autre podcast, mais celui qui réussit, c'est peut-être pas spécialement le plus fort. Je pense qu'il y a aussi un peu de politique. Genre, toi, tu as un niveau vraiment de fou, mais peut-être qu'il y en a qui est dans un bon groupe, il a un très bon niveau comme toi. Sauf que lui, il a été placé au bon moment, au bon endroit.
Ouais, alors moi, j'ai plutôt tendance à dire que moi, j'ai pas trop un niveau de fou, mais par contre, je suis arrivé un jour au bon endroit, au bon moment. Ce qui fait que j'ai eu la chance de faire des trucs vraiment cool, parce qu'il y a beaucoup de très, très bons musiciens ici à Lille. Mmh. Qui sont bien plus forts que moi
et qui n'ont pas ta place
et qui n'ont pas ma place Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas une question de niveau. C'est vraiment une question de réseau, de rencontres, de trucs. Après, effectivement, il faut un minimum de niveau. Mais voilà, je connais vraiment beaucoup de batteurs que j'ai côtoyés de très longtemps au conservatoire, par exemple, ou à côté, qui sont bien meilleurs que moi. Et puis après, c'est aussi les affinités.
Avec les artistes.
Avec les artistes et ce que tu as envie de faire, tu vois, ce que tu dégages artistiquement. Il y en a qui vont plutôt faire de la chanson française, d'autres du jazz, d'autres du rock, tu vois.
Et puis en plus, dans toutes les musiques courantes qu'on entend, et dans, enfin, les chansons des gens connus, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un très très gros niveau de musique et, pour n'importe quel musicien pour faire ce. Pour accompagner le chanteur.
Non. Après, sauf si tu, es dans un style où musicalement, instrumentalement, il y a vraiment un truc difficile, comme dans le jazz ou la fusion. Ou là, c'est vraiment des trucs où ça doit être compliqué. Mais pour accompagner Vianney, par exemple,
ouais.
J'ai des élèves qui pourraient le faire.
D'accord. Ouais.
Tu vois, parce que. Mais on ne demande pas à un mec de savoir jouer des trucs complexes. On lui demande de savoir jouer des trucs simples, mais hyper bien.
Ouais.
Avec un super son, un super feeling d'être à l'heure, d'être sympa.
Ouais, et de pouvoir le faire avec tout le monde aussi.
S'adapter
à l'artiste aussi, savoir ce qu'il aime bien pour pouvoir réagir à lui.
Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça, être humble. Les trois quarts des trucs qu'on entend à la télé ou à la radio, c'est pas des trucs compliqués, quoi. Et souvent, je dis à mes élèves qui ont fait un an, deux ans de batterie, je dis voilà, maintenant, tu peux jouer quasiment 90% des choses qui passent à la radio. Quoi. Mmh. Après, bien, non, moins bien, mais en tout cas, techniquement, ils savent le faire.
Mmh. Oui, d'accord.
Ouais, donc, il y a de l'humain en plus. Là, honnêtement, et les rencontres, parce que genre, si tu parles de Vianney, pourquoi il va choisir ce batteur-là et pas l'autre?
Pour tout ce qu'on vient de dire.
Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est que le... C'est pas spécialement le talent, c'est ce qu'on disait.
Ouais, ouais. Bah, et après, dans ces sphères-là, Vianney, lui, il a signé dans une maison de disques qui lui fournit un directeur artistique. Le directeur artistique lui fournit une liste des musiciens. Et le gars, c'est quand même rare que l'artiste choisisse les musiciens. Quoi.
Ah bon ?
Ouais, il y a un directeur artistique qui bosse pour lui, qui fait ses arrangements, qui est souvent pianiste, claviériste. Et qui dit, ben voilà, on va bosser avec un tel. Et le gars dit, OK, ben on y va. Parfois, ça roule, parfois, ça roule pas. Mais c'est souvent comme ça. C'est pas Vianney qui connaît ce batteur-là, qui va appeler, tiens, je veux ce batteur-là. C'est assez rare, ça.
Moi, je suis étonné. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'artiste qui décide son groupe, quoi.
Bah après, il doit peut-être avoir le droit de veto sur certains trucs.
Oui, il a toujours le droit de veto, mais...
Dire, bon, ça marche pas et tout. Puis après, il trouve la bonne personne
qu'on lui présente. Moi, j'ai vu un reportage, après, c'est rien à voir, mais genre un reportage sur Michael Jackson. Genre, c'est lui qui contrôlait tous les trucs. Hein.
Ouais, mais
on lui imposait pas...
Il y avait déjà un mec avant, en dessous de lui qui lui proposait des gens.
Ah, il faisait une shortlist. Ouais. Ah, ça, je suis d'accord.
Mais...
Mais genre, il disait pas, ah, à ce concert-là, t'as ce batteur, t'as ce guitariste. Je pense que c'est lui vraiment qui choisit.
Après, quand il dit, c'est pas forcément que ça change à chaque concert, mais c'est juste par artiste. Genre là, on prenait l'exemple de Vianney, il a dû avoir peut-être une sélection ou pas. On l'a dit, bah voilà, nous on a l'habitude de travailler avec lui, qui sont très bons, qui peuvent correspondre à ce que toi tu fais. Et ils écoutaient, ils disent, ouais, voilà, avec lui ça passe bien, ouais, c'est ça quoi.
Ouais, et puis chaque artiste, suivant la tournée, change parfois complètement d'équipe. Hein. C'est le même artiste et il fait une tournée avec ce groupe-là, puis une autre tournée avec plein de gens différents. Ça dépend de Dieu.
Ils font des castings, les gens comme ça ?
Ouais, il y a des auditions. Hein. Il peut y avoir des
auditions. T'en as passé, toi ?
J'ai déjà passé des auditions pour jouer dans les revues qui sont au Casino Barrière.
Mmh. Okay.
Voilà, mais
une avec Johnny, je ne sais pas si vous connaissez.
Johnny, comment Hollywood, Hollywood,
un truc comme ça. Mais bon.
Et il est mort depuis, le pauvre.
Ouais. Ouais, non, j'avais fait des auditions comme ça, voilà.
Ok. Et après, il y a de la concurrence, je suppose, de toute façon.
Oui, bien sûr. Et puis bon, ici, c'est un petit milieu, donc tout le monde se connaît. Et je n'avais pas été pris. Mais ça, en fait, ce n'était pas grave à l'époque parce que je partais en tournée. Oui. Et si j'avais été pris, j'aurais été emmerdé à cause de ça. Mais je n'ai pas repassé d'audition depuis. Je n'ai pas besoin, et c'est pareil, c'est un truc que tu fais à Paris, ou... et puis c'est pareil, il faut connaître la personne qui connaît la personne, qui sait qu'il va y avoir une audition, donc il faut se présenter ou il faut appeler. C'est ouais. très... c'est pas... ouais, ils ne mettent pas des annonces sur Facebook, on cherche quelqu'un. Quoi.
Ouais. Et, ouais. Tu peux nous parler, du coup, là, tu parles un petit peu d'une tournée que tu as faite. Tu peux nous parler un peu, justement, de ton palmarès, appeler ça comme ça, de tournée. Nous, on sait que tu as déjà fait 2 tournées pour Wax Taylor.
Ouais.
Ça.
Mm-hmm.
Est-ce que... ouais, j'allais dire... un peu comment t'es arrivé là, ou alors est-ce que t'en as fait d'autres, est-ce que t'as fait d'autres artistes qui ont un petit nom dans le milieu ou pas, sur lesquels t'as pu les accompagner dans des concerts plus ou moins gros. Je pense que Wax Taylor, c'était le plus gros, c'était les plus gros trucs que t'avais fait.
Ouais. Il y en a d'autres. Okay. Ouais. Et j'ai fait j'ai fait 3 tournées avec lui.
3. D'accord.
Et la première, d'ailleurs, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le conservatoire, sur le fait d'apprendre tout seul ou pas. Le conservatoire, moi, m'a appris donc à lire des partitions et à faire de la musique classique. Et un jour, il y a un pote qui m'a appelé en disant bah voilà, Wax Taylor vient, fait une tournée avec un orchestre symphonique pour ses 20 ans de carrière. Il cherche des percussionnistes classiques. Est-ce que ça te branche qu'on essaye de le faire ? Donc, je suis rentré, j'ai rencontré Wax Taylor par ce biais-là, par le biais de la musique classique. C'est-à-dire que si moi, je n'avais pas été au conservatoire, je n'aurais pas fait de tournée finalement.
Ouais. Ouais, bah, de toute façon, un peu comme dans tout, c'est tes rencontres qui font ce que tu deviens, et puis ouais, là, un coup de hasard, un coup de chance.
Là, c'est mes études, d'autant plus. Quoi. Ouais. Donc, j'ai fait une tournée avec un orchestre symphonique où j'étais percussionniste classique, où j'étais pas du tout batteur. Et donc, c'était une petite tournée, mais on était, je sais pas combien, 40 sur scène peut-être. Donc, ça, c'était ma première tournée, et c'est comme ça que je l'ai rencontré, et que plus tard, il m'a rappelé pour venir faire là, à ce moment-là, de la batterie. Et donc, j'ai fait une tournée et je viens d'en finir une autre là. Et sinon, des tournées, vraies tournées, comme ce que j'ai fait avec Wax Taylor, non, j'en ai pas fait. Je suis allé une fois aux États-Unis avec un big band. On a fait peut-être une dizaine de concerts sur 2 semaines. Est-ce que c'est une tournée voilà,
Oui, un petit peu.
Mais bon, voilà. Non, c'est vraiment
déjà, tu payes des coups à tout le monde dans un bar, c'est une tournée. Donc, c'est tu fais 10 dates aux États-Unis. C'est une tournée. C'est une déjà tournée. 10 dates de plus que moi, ce que j'ai pu faire aux États-Unis.
Ouais.
Mais...
avec ta nana dans une cave, c'est une tournée. Ah non, c'est une tournée, ça n'a rien à voir d'ailleurs.
Non, c'est ça, on y a avec le ping-pong, ça, je crois. Mais il faut une table.
Ping-pong chaud. Ouais.
Et tu sais, du coup, pendant la tournée, les concerts, tu sais combien de. Enfin, la taille des salles, combien de personnes tu avais dans les salles
Dans les salles, ça allait de 1000 à. Ouais, 2000, un peu plus. Bon, voilà. Ouais. C'est ce qu'on appelle les SMAC, c'est les salles de musique actuelle en France. On a un réseau de SMAC qui est génial ici en France et c'est un truc qu'il n'y a pas dans les autres pays. Comme l'Aéronef, c'est la SMAC, c'est la salle de musique actuelle qui accueille souvent des groupes de musique actuelle et qui sont entre 1000 et 2000 personnes. Et c'est canon parce que dans ces salles-là, tu as des cuisiniers qui font à bouffer pour tout le staff, pour les artistes qui viennent, matin, midi et soir. Donc quand tu arrives, toi, tu as le petit déjeuner qui est parfois génial, le midi avec des plats dans tous les sens, le soir aussi, il y a des douches, tu vis là-dedans, quoi. C'est des salles où il y a ça, et c'est les SMAC en France, et c'est vraiment cool. Ouais, et donc nous, on fait les tournées, on a fait surtout les SMAC.
Ouais. D'accord, ouais, du coup, c'est un repère pour l'artiste de se dire, bah voilà, je vais... joue dans des SMAC, un peu comme le mec qui part en vacances au Club Med, il sait ce qu'il va avoir, et dire, bah voilà, ce sera toujours la même chose, il y aura toujours ça, avec ce service-là de régie, on va dire, à côté, qui te permet de... Non,
c'est... Ouais. Ça, c'est dans les salles, ouais. 1000, 2000...
Donc, 1000 à 2000 personnes, d'accord. Ouais. Ouais, c'est déjà pas mal, quoi. Si on pouvait, nous, avoir 1000 à 2000 personnes...
Ah bah oui, à mon mariage, on était 80, c'était déjà beaucoup.
Ouais.
Honnêtement.
Ah, c'est surtout que... Quand tu fais, enfin moi j'ai eu la chance de faire des tournées où à chaque salle c'était quasiment rempli jusqu'au bout quoi. Ouais. Tu arrives dans une salle qui est pleine à craquer, qui est 1000 ou 2000 personnes, il y a un moment où tu vois plein de gens et t'es content quoi. Et à partir du moment où la salle est pleine, t'es hyper content. Ouais. Ce qui est assez rare finalement de jouer dans une salle pleine où les gens viennent t'écouter, c'est quand même hyper rare.
Oui.
Enfin moi à mon niveau ici à Lille. Tu vois, je suis pas le batteur de Vianney ou un batteur sur Paris, mais
Zénith,
tu vois, parce que quand je suis pas en tournée et que je fais des concerts, je suis dans des grandes salles qui sont rarement pleines ou où les gens n'écoutent pas forcément. Ou, enfin, tu vois, c'est vraiment un autre délire, quoi.
Est-ce que vous savez quel groupe a ramené le plus de personnes au Stade de France?
Les Rolling Stones? Les Red Hot?
Non. Je crois que Rolling Stones, ils sont deux ou un truc, ils sont deuxième.
C'est américain?
Non, c'est un groupe français.
C'est un groupe français.
Ah merde, c'est Indochine.
Ouais, c'est Indochine. Oh là.
Désolé. Désolé. Ouais. Ah ouais. Il y a deux groupes dans je suis très ouvert musicalement, mais il y a deux groupes que j'arrive pas à écouter ou je zappe à la radio. Et Indochine, c'est le premier. Mais bon.
Et le deuxième, c'est quoi?
Matmata.
Matmata. Mm. Et tu sais combien de personnes, du coup, combien de personnes au Stade de France?
Non, aucune idée.
80 000.
C'est plus.
C'est plus. Ouais. Bah 100 000 alors.
97 000 personnes.
Ouais, c'est énorme.
T'imagines quand même, tu te dis, voilà, quand tu commences à prendre le micro et tu te dis, bon, voilà, il y a 97 000 ouais. personnes qui ont payé pour me voir. Ouais, tu te dis, putain, j'ai quand même une légère pression. Ouais. Quoi.
Et un qui n'a pas payé parce qu'il était rentré par la porte de secours. Ouais.
Donc, de toute façon, le score, logiquement, c'est, ils m'ont dit, c'est officiellement 97 000, mais officieusement 97 001, parce qu'il y en a un qui est rentré sur le côté, mais il n'y avait pas de billet, on ne pouvait pas le compter.
Ah, j'avoue que là, c'est quand même un niveau au-dessus. Ouais. Mais c'est beau que ce soit français quand même.
Ouais, bon, c'est au Stade de France après. Oui, donc tu dis.
Et pas en groupe, t'as pas en groupe parce que genre Johnny il a ramené aussi des trucs.
Non, mais ouais, bah, je pense que Johnny fait partie. C'est quel groupe, mais parce que tous les artistes.
Ah,
confondus.
Tu veux dire quel artiste? Ah, ouais, Indochine tous les artistes. A dépassé Johnny?
Ouais, ouais.
Je suis étonné.
Ouais, non, si, j'avais le.
Okay. J'avais le concert, truc. Peut-être.
Après, je suis étonné. Il y a peut-être aussi une question logistique au-delà d'une question de nombre de personnes qui peuvent venir. C'est s'il a une scène énorme, etc., forcément, il prend plus de place. Bon, donc, okay. Du coup, il y a moins de personnes qui rentrent. Mmh. Il y a peut-être, ça doit être dû à ça. Mais...
Bon, en fait, là, Indochine, ils ont joué dans le placard. Les gars, on n'a pas de place, mais on veut vraiment ramener du monde.
Et puis on fait une seule fois. Quoi,
attends, ça. Pendant le Covid, on n'a rien fait. Là, on va quand même donner. Il y avait une télé.
Ouais. Non, c'est horrible. Et, autre petit chiffre... un peu on va dire n'importe quoi, votre avis, le chiffre d'affaires de la tournée de Taylor Swift? Donc là, elle a fait une tournée, je crois qu'elle est en deux parties sur 2022.
En France?
Non, dans le monde. Donc elle a fait 2023 et elle refait 2024. C'est deux fois 60 dates ou quoi que ce soit. Le chiffre d'affaires.
100 millions. C'est en millions, mais non. Je sais pas.
Plus que 100 millions?
Non, moins. Moins.
Bah non, mais 60 dates, moi je dis il y a 1 million.
Toute sa tournée.
Moi je dis il y a 1 million.
Ah, mais parce qu'il y a beaucoup de monde qui bosse là-dessus. Hein, donc,
chiffre d'affaires.
Non, mais chiffre d'affaires, c'est-à-dire tu ne payes pas les gens, c'est ce qui rentre.
Combien? En gros, c'est le nombre de tickets vendus fois le prix de la place.
Ouais, c'est ça.
Combien ça crée?
Moi j'aurais dit 100 millions.
100 millions toi?
Bah, j'aurais dit 1 million par concert, t'en as 60 et avec du bonus. Sûr. Genre les places VIP qui doivent coûter.
D'accord.
Non, je n'irai pas jusque-là, mais je suis à 40, 50.
Ok, 2 milliards 100.
Voilà.
Non, si. 2 milliards.
2 milliards 100.
Ah oui, donc il manquait un zéro pour moi.
Alors...
il manquait un zéro.
Oui. C'était fois 20. Ouais, il y a 4,3 millions de billets vendus, avec une moyenne à 240 euros le billet.
C'est énorme. Ouais. Tu m'étonnes qu'elle a prolongé le délire.
Ouais. Mais déjà, je ne sais plus. Bon,
après, c'est rare les artistes comme ça. Hein.
Ouais, oui, c'est très rare. Elle en a fait un film, même le film, genre, il a déjà fait 95 millions de chiffre d'affaires, enfin de au box-office, pour le film de son concert. Tu sais.
Ouais,
et encore, je pense qu'on avait vu quelques images de sa tournée, il y a même plein de gens qui ne sont pas rentrés, elle était obligée de diffuser les trucs sur les stades pour que les gens dehors puissent au moins la voir, tellement c'était la folie. Quoi.
C'est un truc américain, ça n'existe pas en France. Le truc de fans comme ça, ça n'existe pas en France. Vraiment un truc de culture américaine qui n'existe pas ici. Quoi.
Fou, toi.
Ouais, non, mais il n'y avait pas autant de gens.
Ils se tatouent.
Parce que Taylor Swift, c'est quasi. Enfin, tu vois, on la connaît,
c'est,
mais.
C'est une religion, quoi.
C'est pas grand chose ici. Tu vois.
Ah oui,
le nombre
ici.
De milliards. Tu vois, il y a vraiment un truc américain, mais ils ont un truc comme ça, moi, je trouve, dans le.
Ah bah, dans les stars, oui.
Bah, déjà, ils sont. Comparé à la France, ils sont quand même beaucoup plus. Aussi, donc déjà, dès que tu es un artiste américain, on va dire états-unien, tu touches beaucoup plus de monde. Nous, on a très peu d'artistes qui sont européens, parce que déjà, c'est pas la même langue partout. Mais on n'a pas quelqu'un qui serait connu vraiment dans toute l'Europe. Là, ils ont des gens qui sont connus dans tous les États-Unis, quoi, dès que tu...
Et si tu prends ce parallèle-là, imagine un artiste chinois, il va toucher encore plus de monde, tu vois.
Ouais, ouais.
Il y a des gens en Chine, ils doivent être des chanteurs trop connus.
Ah oui,
nous, on n'a aucune idée de son existence. Ouais. On la croise dans la rue, on ne va même pas lui demander une autographe. Enfin, moi, à la limite, un sushi. Bon, ça, on le coupera. Ça, on le coupera. Non, laisse pour Sébastien.
Ouais, ça va bien.
Il va aimer.
Et toi, je crois que tu m'avais raconté une fois pour genre dans les trucs un peu extravagants, c'est les moyens qu'il faut pour faire une tournée, un concert. C'était c'est Mylène Farmer qui vient avec.
Ouais, c'est ça. J'ai entendu ça dans la. Parce que quand tu bosses en tournée, t'as des techniciens qui bossent sur d'autres trucs. Et ouais, c'était un truc de fou. C'est des mois de préparation. C'est des 40 ou 50 semi-remorques par concert qui viennent installer, tu vois. Et elle est toute. Enfin, c'est Mylène Farmer. C'est-à-dire que le nom, c'est Mylène Farmer. Elle a des musiciens, elle a des techniciens. Mais
tu vois, elle, je suis sûr, c'est elle qui choisit ses batteurs, non ?
Elle a un mec qui fait une shortlist pour elle et si ça va pas, mais elle a pas le temps de se faire chier. C'est qui le meilleur batteur.
Oui, je suis d'accord.
À chercher sur Facebook, alors batterie. sur Marketplace, alors, qui fait de la batterie.
Yann de Lille. Intéressant, hein, franchement. Non, ça je suis d'accord, il y a une shortlist.
Ouais, puis souvent, tu vois, Mylène Farmer, souvent elle joue avec des musiciens américains d'ailleurs. Qui avait à l'époque, ils avaient joué aussi pour Johnny, en tout cas le batteur. C'est le batteur qui avait joué pour Johnny. Après, il a joué pour Mylène Farmer. Ouais, c'est des trucs.
Il y a de la batterie dans ces musiques, là.
Ah ouais, bien sûr.
Déjà, tu imagines, ouais, 30, 40 semi-remorques, le matériel, tu dis la débauche de moyens que c'est pour un truc comme ça. C'est vrai que moi, là, tu me dis un concert. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un concert ? Je lui dis, bah voilà, le mec, il prend son kangou, il met son matos et puis c'est fini, quoi. Tu dis, là, il y a légèrement plus de trucs, quoi.
Parce que, ouais, non, t'as quand même une notion au minimum, tu vois.
Non, mais après, t'as un peu la notion, un peu comme tu disais pour les SMAC, où tu dis, bah en fait, c'est des choses qui sont dans la salle, tu sais. Ils utilisent tous les trucs de la salle. Ouais, et là, alors moi, j'ai fait, on va dire, un concert dans ma vie, c'est un festival, c'était au Main Square, et c'est vrai que tu vois l'installation de chacun des artistes. Il dit, ah oui, mais en fait, il a dû venir avec ces trucs pour pouvoir préparer exactement ce qu'il voulait pour avoir le truc, quoi.
Bah, il y a toujours leur lumière.
Ouais.
C'est hyper important.
Bah, donc voilà, leur lumière.
Oui, bien sûr.
Bah ouais, c'est pour ça.
C'est le moins important, presque.
Il y a quand même un mec qui est là et qui conceptualise toute la lumière du show. Donc, il faut absolument cette lumière-là et pas une autre. Ouais, donc, ça veut dire que tu l'achètes et tu la prends avec toi. Ah, okay. Pareil, les écrans vidéo, c'est ces écrans-là, ils sont là. Le son, il faut cette console-là parce qu'il y a nos réglages à nous. Donc, finalement, tu vois, tout ce truc-là, tu l'emportes avec toi. Parce que le plus gros qui est pris dans les semi-remorques, c'est la scène, les écrans, les lumières, le son, c'est pas les instruments. Hein. Les instruments, ça prend pas grand-chose. Hein.
Oui, à la limite, genre, t'as deux batteries pour être safe, mais et à la limite, quoi. Même pas.
Ouais.
Tu vois. Mais tu vois, là, du coup, au Main Square, il y avait le truc le plus impressionnant visuellement, c'était David Guetta. Tu vois la préparation du truc, et c'est vrai que lui, il avait un système pour faire un aspect d'hologramme sur les trucs. Donc, les mecs ont installé quatre trucs en forme, on va dire, comme sur un cube. Des écrans pour pouvoir projeter des choses pour que dans le noir ça fasse la 3D. Il y avait des choses qui projetaient des flammes à certains moments. Tu dis, bon, bah c'est vrai que le Main Square a pas prévu de faire un truc de flamme pour Bobby Lapointe qui passe à 14h. Donc forcément, David Guetta, quand il vient avec son truc, quoi. Il est obligé de le faire. Hein.
Ouais.
Est-ce que vous savez quel est le plus grand festival et combien du coup le plus intéressant c'est combien
mais
de personnes
c'est quoi, mais où, en France ou en Europe?
Non, dans le monde.
Dans le monde, bah, c'est aux États-Unis.
Ouais, c'est
Burning Man.
Ouais, j'aurais dit
voilà,
ça.
C'est pas, je crois que c'est pas vraiment considéré comme un festival de musique. C'est Burning Man,
ouais, c'est plutôt une secte.
C'est un truc, une braderie quoi.
Non, je sais pas,
braderie de Lille.
Je sais pas, mais je pense que c'est aux States, ouais.
Ouais, c'est le Summerfest. Et c'est combien de personnes, à votre avis?
15 millions.
Non, là, ça fait beaucoup.
Bah, pourquoi?
Bah, c'est un peu.
J'ai, 15 millions, j'ai... c'est 10% sur un.
Ouais, mais c'est la Belgique, quoi. T'imagines, ça, ouais, fait... ça fait quand même beaucoup. Tu dois gérer la Belgique et pour oui, investir. Oui, oui, mais c'est déjà pas mal.
Alors, en fait, j'ai calculé, ils sont combien? 250 millions, les Américains?
Je sais pas. Je vais pas dire de bêtises, je sais pas. J'aurais dit 300, moi, mais.
J'aurais pris 10%, tu vois. Mais oui, c'est peut-être.
Ouais, c'est quand même pas mal, déjà. Non, c'est 800 000 à 1 million de personnes.
1 million. Ok.
C'est déjà.
C'est ouais, beaucoup. C'est... Bah, Indochine, il a déjà fait 100 000, alors.
Ouais. Non, mais déjà, tu t'imagines. Où est-ce que les gens se garent, quoi? Ouais. Quand ouais. C'est un parking, bah, on a un parking, il faudrait 1 million de places. Ça fait beaucoup.
Ça fait plus, c'est vrai que ça champ, faut y quoi. Penser aussi.
Ouais, c'est la logistique. Oui. La logistique.
Bah, quand
c'est
tu ça, vois Burning Man, là, t'as des vidéos sur les colonnes de voitures, c'est énorme.
Ouais.
C'est énorme.
C'est, la logistique, c'est une partie hyper importante et hyper stressante dans la tournée. Ouais. Je suppose que vous avez un truc...
Et qui est caché un peu, quand même.
Ouais, déjà, ouais, c'est les hommes de l'ombre.
Ouais, voilà, on a un gars qui est donc c'est le tour manager, qui est son boulot, c'est de gérer toute la logistique en amont et sur place tout le temps. Et c'est un truc de ouf, mais quand tu le vois faire et que tu vois le résultat, tu te dis waouh, s'il était pas là, le truc ne tient pas, quoi. Ça marche pas. Et non, c'est pas stressant parce que parce qu'ils connaissent leur boulot et c'est ouf, quoi.
Parce que eux, ils vont et ils doivent gérer galère sur galère, je suppose.
S'il y a des galères, c'est eux qui gèrent, ouais.
Le camion qui crève, la caisse qui tombe, l'hôtel qui a pas pris la réservation, le machin.
Ouais,
le
ouais, mais c'est en fait, voilà, s'il y a, éventuellement, s'il y a une galère, il sait comment, tout de suite. Dès que t'as une galère, c'est lui que t'appelles. Et lui, t'es sûr que dans l'heure, la galère est réglée, quoi. S'il y a un truc à casser, qui n'est pas là, c'est bon, il a les contacts, il appelle les machins. Mmh. Tout le monde, c'est...
Il a un carnet d'adresses de ouf, quoi. Mmh.
Toi, la tournée avec Waxteller, elle était c'est mondiale
La dernière, non. Pour moi, elle n'était que française. Celle d'avant, elle a été mondiale, les États-Unis et l'Europe.
Ouais. Et là, du coup, là, donc sur la dernière que tu as fait en France... C'est quoi ces tourbus avec les gens dedans vous êtes dedans tout le temps, vous dormez dans le tourbus et il y a des camions derrière avec le matos.
On avait un tourbus pour 16-17 personnes et un semi-remorque qui trimballe le matos. Voilà, on était deux gros trucs comme ça. Et toujours en tourbus. De toute façon, en fait, c'est plus économique de prendre un tourbus. Ouais. Que de prendre des billets de train et des hôtels.
D'accord. Et tourbus, tu dors dedans. Ouais, vous vivez dedans, quoi.
On dort dedans. D'accord. On vit pas dedans parce que c'est quand même petit et que les couchettes, c'est un peu
des placards, des petits placards.
Bah, c'est des cercueils, quoi. Tu vois, ouais. Tu peux pas tendre le bras si tu touches le plafond, quoi. Donc
ouais, après, toi qui as fait la Deuxième Guerre mondiale, ça te rappelle un peu les trains.
J'ai 25 ans, je te rappelle. Non, mais donc c'est cool. On dort dedans.
Pendant la nuit, ils t'amènent à l'autre endroit, en fait, et toi,
C'est vraiment hyper bien ficelé, tu vois. Tu finis le concert, à 1h du matin, tu prends le bus, et lui, il roule toute la nuit, ce qui fait que le lendemain matin, à 7-8 heures, tu es à l'autre salle, tu as dormi toute la nuit, tu peux continuer à dormir dans le bus. Et ça fait ça tout le temps. Donc, vraiment, c'est bien pensé. Et c'est carrément logique et mieux comme ça. Tu vois.
Et question qui va intéresser que moi, tu as le droit, tu dois être attaché avec une ceinture de sécurité c'est prévu pour pouvoir dormir attaché avec une ceinture de sécurité?
Non, il n'y a même pas de... Alors, je crois qu'il y a des ceintures sur les sièges du bas. Parce qu'en fait, donc, en bas, tu as une espèce de salon. Ouais. Tu as des sièges où tu peux être à 4, tu as plusieurs salons, parfois tu as des canapes, il y a des télés, tout ça. Là, il y a peut-être des ceintures, et encore, je ne pense pas les avoir vues, mais j'imagine que ça existe, mais dans les couchettes,
il n'y a rien.
Non. C'est pour ça que le chauffeur, c'est important qu'il conduise bien, justement, parce que c'est lui qui va te permettre de bien dormir. S'il fait trop d'à-coups, tu vois, tu le sens dans ton sommeil. c'est pas toujours un sommeil hyper réparateur parce que tu bouges quand même toute la nuit.
Ouais, c'est du camping quand même, quoi. Ça reste.
Ça reste. Après, c'est un vrai lit, il y a une bonne couette, il y a un système d'aération. Parfois, il y a même des télés dans les couchettes. Et puis, mais t'es séparé des autres que d'un rideau, quoi.
Ouais. D'accord.
Donc, t'es pas séparé des odeurs ni des bruits. Donc, ça, c'est rigolo, ça.
Ça bah, le gars, il ronfle toute la nuit.
Ah ouais, en bruit, je pensais pas forcément à ronfler.
Ah ouais, ok. Et en odeur, tu pensais quoi?
Ouais, parfois, il y a des, enfin, parfois, y a des nanas qui...
Ah, qui viennent dans le bus?
Des gaz. Y a des... Enfin, moi, tu vois, dans les tournées que j'ai faites, il y a toujours eu des filles. Et elles ne sont pas épargnées par, par les bruits, les ronflements et les odeurs. Hein, enfin, tu vois. Donc, c'est tout, c'est comme ça. Hein.
Ah bah ouais. Et vous êtes combien là dans le bus justement, technicien et chanteur, enfin musicien?
On était, alors je sais plus, je crois 16, 17, un truc comme ça.
Ah oui, quand même. Ouais. Donc il y a 17 couchettes, ouais, donc effectivement ça ne doit pas être l'argent. Mmh. Parce que allonger 17 personnes dans un bus, bon.
Alors c'est des trucs superposés, hein,
ouais, bien sûr.
Il y a une grande chambre au bout du bus.
Pour la vedette.
Pour le chauffeur.
Il démarre. Puis après.
Souvent, c'est pour la vedette, mais là, pour le coup, lui, il dormait au même titre que nous. Et non, les chauffeurs, ils ont une toute petite cabine à côté des escaliers, là, vraiment, qui est pour eux. On ne les voit jamais dormir, d'ailleurs. C'est vraiment à l'abri des regards, mais voilà.
Et qu'est-ce qui dormait dans le truc des stars?
On mettait souvent nos valises, en fait. Parce que parfois, il y a des... Ouais. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rangement.
Ouais, c'est vrai.
Donc, toi, tu arrives avec une valise. Donc, tu es dans un truc où tu ne peux pas te tenir debout. Tu dois te changer, enlever tes trucs. Donc, les valises, on les mettait là-bas et on les sortait dès qu'on arrivait, quoi. C'est plus un espace de rangement.
C'est stylé, quand même.
Ah ouais, c'est stylé. La première fois que tu arrives dans un truc comme ça, tu...
Ouais. Bah ça, tu te prends vraiment pour une vedette, quoi.
Non, mais c'est ça.
Les seuls trucs que tu vois, c'était... Ouais, ceux des Rolling Stones, des Beatles, ceux de Mélenchon, tous les trucs comme ça. Tu dis, putain, le rêve, quoi.
C'est clair. Non, si, c'est quand même très stylé d'être dans un truc comme ça, de voyager toute la nuit. Je me rappelle la première tournée que j'ai faite dans le tourbus, j'avais parfois envie de rester toute la nuit. En fait, au-dessus du chauffeur, il y avait une cabine avec deux places face à la route. Et j'avais envie de rester là toute la nuit et regarder la route défiler. Ouais, je me disais, je suis dans un tourbus, on va aller faire de la musique.
Ouais.
C'est le truc que je rêvais quand j'étais tout gamin, mon premier concert, j'étais avec mes potes, on disait un jour on va peut-être faire ça. Et là j'étais dedans. Quoi.
Ouais.
Et j'avais envie, alors je n'ai pas regardé la route tout le long, mais rien de regarder la route, parce qu'en plus, tu vois, tu es dans un tourbus, il n'y a personne sur la route, tu as l'impression d'aller hyper vite alors que tu ne vas pas très vite parce que tu es dans un gros bus. Et ça te. Ouais, c'est quand même. Tu touches un rêve du doigt.
Ouais, bah, je pense que quand tu es batteur ou musicien, tu veux faire partie d'un groupe, tu veux cette expérience. Ça fait partie de l'expérience que tu cherches.
Ouais.
Non.
Ouais, c'est pas une question de groupe, c'est une question de... Tu as envie de faire ça un jour d'une façon ou d'une autre. Si c'est dans un groupe avec tes potes, c'est encore mieux, mais c'est encore plus rare.
Ouais. Mais...
Si j'avais pu faire ça avec mes potes, j'aurais été encore plus heureux.
Oui, bah c'est sûr.
Mais bon, je suis assez...
Très bizarrement, Mylène Farmer, je la vois mal dormir dans un tourbus. Hein.
Ouais, alors, c'est ça. Il y a des, tu vois, dans des grandes tournées comme ça, parfois, donc nous, on est 17 dans le même tourbus, mais quand il y a. Parce que. Donc, moi, j'avais des potes qui étaient avec Aurel San, là, en ce moment, ou. Comment il s'appelle mince, j'ai oublié son nom. Bref, en tout cas, les artistes, parfois, ils ont un tourbus pour eux. Ils ne croisent jamais personne. Parfois, ils sont avec les autres. Mais bon, Mylène Farmer, je pense qu'elle prend l'avion, elle n'est pas avec les autres. Quoi.
Ah bah, je pense qu'elle est au Sofitel. Hein.
Oui.
Elle n'est pas au tourbus. Hein.
Ah ouais, Sofitel. Hein.
Ouais, ou peu importe.
Parce que moi, j'ai dormi à l'Ibis Budget et je pense que j'ai vu Mylène Farmer. Oh. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que j'ai vu Mylène Farmer.
Mylène Farmoule. C'est pas la même.
C'est, pas...
c'est la collègue.
Ouais, elle, c'était pas une tournée.
c'était la tournée, ouais, justement. La tournée générale. Le F1, de Ronchin.
Ça marche. Petite question pour montrer un peu la folie des gens. À votre avis, vous savez qu'il y a dans les concerts, il y a du merch. Donc, il y a des gens qui peuvent acheter des t-shirts de Taylor Swift, de machin. Et il y a un mec qui s'est mis à vendre sur eBay un produit dérivé d'un concert. À votre avis, c'était quoi?
Le produit dérivé d'un concert.
Il faut aller chercher loin.
Genre un fauteuil, par exemple.
Ouais, va encore plus loin.
Encore plus loin. Ah, le papier toilette, des papier toilettes, ouais. De...
T'es pas si loin. T'es pas si loin. T'es dans le même délire. Le mec s'est dit, ouais.
Ça a rapport c'est un truc avec les toilettes.
Non, ça a pas rapport avec les toilettes, mais c'est aussi con. Il s'est passé un truc un peu particulier au concert. Et le mec a réussi à essayer de le revendre après.
Enfin, l'artiste a éternué et un mouchoir.
J'allais dire, c'est encore plus ridicule que ça. Ah.
Il a craché par terre.
Non. Bon, c'est Taylor Swift, donc je suis pas sûr qu'elle crache beaucoup par terre.
Taylor Swift. Non, c'est pas... par rapport à la transpiration.
Non, mais on est. On est à peu près dans le, on est à peu près dans le même genre parce que si tu voulais revendre de la transpiration, le mec il l'a vendu dans le même contenant quoi.
Ah ouais.
Ah. Genre t'as un pot d'un truc de Taylor Swift.
Bah du concert de Taylor Swift. Et en fait il a pu le faire à ce concert là, mais il aurait pas pu le faire à tous les autres concerts.
Okay, donc c'est un truc qui arrivait juste sur ce concert-là.
Ouais,
il a plu.
Ouais, exactement.
Il a plu. Il a ramené la pluie.
Il est censé avoir récolté la pluie et il a revendu la pluie du concert de Taylor Swift.
Donc elle n'est même pas tombée sur elle en plus.
Non, elle n'est pas tombée sur elle, mais c'est juste la pluie qui est tombée.
D'accord.
C'est un génie.
Et a priori, je crois que c'était plus de 200 balles le truc. Et a priori, l'annonce n'est pas restée très longtemps, peut-être parce qu'il a dépassé. Peut-être qu'il a vendu tout ce qu'il avait à vendre. Quoi.
Ouais,
il y a tout le monde qui s'est moqué un peu de lui, mais il y a forcément, enfin quand tu vois
le délire,
il y a forcément des gens qui l'ont
acheté. Tu vois que tu as plus de commandes, tu ouvres ton robinet et tu fais plusieurs pots.
Bah, évidemment que c'était ça, c'était une grosse arnaque, certainement.
Ça, c'est mais, sûr. Ouais, ouais.
Tu as des anecdotes rigolotes que tu pourrais... que tu aurais raconté qui se serait passé en tournée, quoi que ce soit, ou même des trucs là... parler des trucs qui, toi, te faisaient rêver, des choses qui se sont passées où tu dis, ouais, ça fait rêver tout le monde d'avoir fait ça. Alors, comme tu dis, le tourbus.
J'ai un truc qui fait bien rêver et qui me fait encore rêver quand j'y repense. C'est qu'en 2017, donc j'étais en tournée avec Wax Taylor et le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique, je suis allé jouer dans un festival à New York, à Central Park, avec Wax Taylor le 21 juin. Et donc moi, venant d'ici, j'avais tous mes potes qui jouaient, tu vois, à Neulémine, à Divion, à Morteau Coulibeuf et compagnie, tu vois. Et puis moi, je jouais à New York, à Central Park. Juste après nous, il y avait Ayo, la chanteuse Ayo. Et voilà.
Parce que le 21 juin, c'est la fête de la musique en France, mais ça n'existe pas aux États-Unis.
Ouais, alors c'est. Non, ça n'existe pas aux États-Unis, mais c'était un truc un peu franco-français.
D'accord.
Mais c'était quand même dans Central Park. Il y avait beaucoup de monde, il y avait des super artistes. Et ouais, c'était vraiment canon, quoi. Moi, je ne m'imaginais jamais jouer un jour à New York, mais là, jouer à Central Park pour le 21 juin.
Le jour de la fête de la musique.
Tu t'es réimaginé 15 ans en arrière, comme tu dis, Russo Ferrino avec une guitare. Et essayer de jouer devant tout le monde avec quatre personnes qui te regardent, deux mecs complètement bourrés.
C'est un peu ça.
Là aujourd'hui, on en est là. Quoi. Aujourd'hui, c'est Central Park.
Ça arrive encore depuis. Hein. J'ai déjà joué dans des endroits où il y a forcément un gars ou une nana bourrée qui vient te voir pour te demander de faire jouer un Johnny Hallyday. Tu vois. Et tu as joué dans une salle où il y avait, je sais pas, peut-être 30 personnes. Et quand tu es dans ce festival-là le 21 juin, Et tu te dis, bon, c'est quand même bien canon. Mais des souvenirs comme ça, j'en ai pas mal. Parce que juste après ce truc-là, on est parti à l'île de la Réunion jouer dans un festival aussi. Donc là, j'ai pris l'avion, j'ai été payé pour prendre l'avion, partir au soleil, jouer dans un festival sur la plage.
Ouais.
Après, je suis resté 4 jours là-bas, c'était canon. Enfin, j'étais avec mes potes, on était au soleil. Et tout ça, c'était dans mon boulot, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est un truc de dingue qui n'arrive...
Et moi, une fois, pour mon boulot, j'ai attendu des EDF sur la grande place de Gravelines.
Ouais.
Je veux dire, c'est quand même pas n'importe quoi. J'étais en plus dans un bâtiment qui allait fermer tout seul, et c'était le jour de mon anniversaire. C'était vraiment, vraiment cool, quoi. Pas de courant, pas de truc, et tu les attends. Et
t'attends,
puis,
t'attends. C'est énorme.
C'est aussi un rêve de gosse.
Ah, j'avoue que ça, c'est...
Ouais, t'imagines, nous, quand on fera un épisode de potion à l'Olympia, on se repensera à celui-là. T'imagines, là, on était dans la salle à manger de Céline et tout, et puis là, on est à l'Olympia, quoi, tu vois. Le tourbus et tout.
Ouais, carrément. Non, mais j'avoue, quand t'es artiste, ça fait partie des concerts.
Bah ouais, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je connais plein de musiciens qui sont hyper forts, qui sont ici depuis longtemps et tout ça, et qui mériteraient plus ou moins ce truc-là aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai cette chance-là d'avoir vécu ce truc-là et de l'avoir revécu il n'y a pas longtemps. Enfin, pas autant, mais... Et c'est vraiment... c'est un truc de fou, quoi. Forcément, c'est ce que j'aurais toujours voulu faire. Et je l'ai fait. Et quelque part, tu vois, c'est un truc d'accomplissement personnel qui est vraiment important dans la vie où tu te dis, bon, ben, ça y est, ça, je l'ai fait. Et j'ai voulu le faire et j'ai réussi à le faire.
Ouais, c'est... Et si tu avais, genre, une baguette magique, tu pouvais jouer avec n'importe qui à un concert, tu choisirais qui?
Oh, Stevie Wonder ou Michael Jackson encore.
Michael Jackson.
Ouais. Ça serait pas mal. Ça
Michael Jackson, c'était vraiment un artiste de fou. Enfin, il était vraiment au-dessus de tout le monde. Enfin, il mérite son statut de king de la pop vraiment pour.
Ouais, mais comme Stevie Wonder, tu vois, mérite son statut de. C'est des légendes, quoi. C'est des icônes de ouf. Et Michael Jackson.
Bah, c'est ce que il y avait quand j'ai vu un reportage sur Michael Jackson, il a quand même réussi, genre en deux notes, tu sais que c'est lui. Enfin, le gars, il disait, enfin, moi, je ne sais pas reconnaître trop vite, mais il dit, pour les professionnels, c'est genre, il a mis un style, il a mis un.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui se rappellent bien de lui. Ouais.
Exactement. Non, non, mais même sur les clips, sur les. Non, il est énorme, celui-là. Mais il est mort.
Il paraît.
Non, il est sur une île.
Avec
Elvis Presley. Et Coluche.
Et certainement Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, j'ai un petit jeu.
Ouais.
Yes.
On va voir les talents de batteur de Yann. C'est un blind test. Mais...
Moi aussi, tu peux.
Ouais, alors, mais toi, ce sera de la chance. Ce sera pas autre chose.
Ce sera pas de la chance, non.
C'est un blind test mais pour reconnaître des morceaux, mais seulement il y a seulement la batterie qui joue.
Ah, faut trouver le cool. Titre de Allez. Chanteur, mais uniquement avec la batterie.
Et uniquement avec la batterie.
Ok.
Alors attends. T'as mis le.
Ouais.
Hop. Vous allez me dire si vous entendez vous. Si vous trouvez pas, j'ai des propositions.
Ok.
Je sais ce que c'est.
Ça me dit quelque chose, mais je trouve pas.
C'est français.
Alors.
C'est français, hein.
Soit James Bond, Superbad.
Non.
Soit The White Stripe, Seven Nation Army.
Non.
Soit Michael Jackson, Billie Jean.
Oui.
Soit Led Zeppelin, When the Leaves Break.
Michael Jackson.
C'est Led Zepp.
C'est donc Led Zeppelin.
Je le savais. Ouais. Non, j'ai dit ça exprès pour embrouiller.
Justement. C'est pour tomber.
Ah ouais.
YouTube.
Ouais.
Ça, c'est le genre de truc, tu sais, on te demande en tant que batteur de faire ça, genre tout le temps. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Allez, et maintenant, tu vois, quand je joue avec, notamment avec Emilien, et au moment où je joue ça, il présente le batteur. Et à la batterie, Yann, et là, tu fais tac, 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 tic, tic.
Bah oui, parce t'attaque. Que c'est ce qui regarde.
T'attaque.
C'est comme. Ouais, c'est ça.
Ouais.
Moi, j'ai pas d'autres dégâts.
Les Red Hot Chili Peppers. C'est Chad Smith.
Pas la chance.
Alors, ça s'appelle.
Très, très fort.
Je sais plus. Non, je sais plus le nom.
Blood Sugar Sex Magik.
Non, ça, c'est le nom de l'album.
Ah.
Ah oui, si, si. Ah ouais, non, c'est le nom du morceau aussi, ouais. Ok. Ouais, ça malheureusement, il y a trop de morceaux qui sont un peu comme ça, donc je peux pas du tout dire.
Comment t'es nul, mais comment faire croire que t'es pas nul? Tu dis qu'en fait tous les trucs ils sont pareils.
Ouais. Mais t'as les propositions ou pas?
Oui. Alors, Aerosmith et Run DMC pour Walk This Way.
Non.
Curtis Mayfield pour Superfly.
Non.
Blur, Song 2,
ouais.
Iggy Pop, Lust for Life.
Ouais, je connais aucun, moi. Moi, j'aurais dit Taylor Swift.
Non, moi, j'aurais dit Iggy Pop par rapport à ce que tu dis, mais...
Ouais. pense. Bah, moi, j'ai fait le truc un peu tout seul, voir ce que ça donnait. Pour moi, c'est Blur, non ? C'est pas Blur, celle-là ?
Ça peut.
Ouais, c'est ça. C'était Blur, son truc. Okay.
Mais alors le mec, il prépare le jeu et après, il fait « Je crois que c'est Blur ». Bah oui, mais c'est toi qui as préparé.
Non, mais après, la batterie, c'est quand même en gros, une grosse caisse, une caisse claire, des cymbales. Ouais, et ouais. Tu peux le faire sur des millions de morceaux, ouais. Ça va marcher. Donc, ouais. Si tu mets que la batterie et qu'il n'y a pas un petit truc qui change,
comme
ça
YouTube,
pourrait être…
Comme YouTube, tu vois YouTube, vraiment la patte.
Et puis, en plus, certainement, comme peut-être un peu tous les instruments, tu as des trucs classiques qui font que ça marche. Je sais plus, il y a une histoire en guitare où tu as 2-3 accords que les mecs, tu peux faire dans n'importe quel sens et du coup, ça fait une chanson
ça
un
fait
peu
un truc,
bien.
Ouais, ou pas
un
mal.
Truc,
ouais. Quoi. Mmh.
Donc là, tu as un peu la même chose.
Ah ouais. Ça, c'est Come Together des Beatles. Mais ça, c'est déjà un truc hyper reconnaissable.
Ouais.
C'est pas une partie de batterie.
En fait, tu vois ce que c'est la chanson ?
Bah oui, c'est vrai, je connais.
Mais une fois.
Tu gazes.
Voilà, exactement. Ouais. Bah, une fois qu'il te l'a. Quand tu sais ce que c'est, tu dis ah oui, ok, ouais, c'est ça. Moi, oui, pareil, il y a les trucs que j'avais reconnus, mais déjà, moi, j'avais les propositions. Donc déjà, c'est. C'est plus simple. Ouais. C'est la même.
C'est vrai que c'est pas facile. Okay. Parce que la batterie, c'est pas l'instrument le plus mis en avant.
Bah. Si, mais non, c'est pas qu'il est mis en avant, c'est que c'est une sensibilité quoi. Il y a des gens qui vont pas du tout l'écouter.
Et c'est comme la basse. Je veux dire, mettre juste un solo de basse, faut quand même être musicien pour dire ah c'est ce morceau. Hein.
Ouais.
La batterie c'est quand même en arrière, enfin entre guillemets. Hein, je dénigre pas, mais
non, bien sûr, mais c'est pas sur le même plan d'écoute.
Ouais, c'est ça.
Normalement, en premier t'entends les paroles, le chant, puis après t'entends le thème, la ligne mélodique, et puis après t'as les autres trucs, et puis après t'as la batterie.
Exactement. Ouais. Maestro.
Non, je sais pas. Ça me fait penser à ça, mais c'est trop lent. Qu'est-ce que ça peut être ?
The Police, Every Breath You Take.
Non.
Boosty Calling, Bootzilla. Joan Jett et The Blackheart, I Love Rock and Roll.
Non.
Et The Meters, Sissy Stewart.
C'est soit Bootsy Collins, soit The Meters, mais je sais pas.
C'était The Meters.
Mm. Ok.
Je ne connais pas la chanson. Enfin, je crois pas.
Après, c'est assez pointu, hein, The Meters. Ça.
Il y a un millimètre, le millimètre, ce qui est encore plus précis.
Encore plus précis.
The
Micrometer, qui est vraiment lui, mais c'est après. Mm. Moi je sais, hein, je ne sais pas, mais je sais.
Ah, il s'est arrêté ?
Ouais. Tu veux le remettre ?
Ah, vas-y, remets. Non, je sais pas.
Pink Floyd, Money.
Non.
Airbnb, Cock.
Airbnb, ouais.
Chameleon. Non. Faith No More, Epic. Rick James, Super Freak.
Rick James.
Non, c'était Herbie Hancock.
Ouais, j'avais dit Herbie.
Ah bon ? Caméléon ? Herbie Hancock ? Ah bah, parce qu'après, c'est un espèce de standard. Il y a des milliards de versions de ce truc-là, mais j'avais jamais entendu cette version-là. Parce que j'ai joué ce morceau-là beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Quoi. Ok.
Il est mauvais.
Ouais, bah oui.
Après, oui. Peut-être que tu le jouais, mais très mal. Donc, du coup, ça ne ressemblait pas.
Exactement.
Alors, en tout cas, je ne jouais pas comme
pas
ça.
Pas celui-là, ouais. Bon, bah demain, on va reprendre tout à zéro.
Ça me dit quelque chose aussi, mais. Non, je ne serais pas bien.
James Brown, Funky Drummer. Metallica, Nothing Else Matters, AC/DC, You Choke Me All Night Long, et Funkadelic, Can You Get To That?
Funkadelic.
C'était James Bond.
J'hésite entre les deux.
J'avoue que c'est pas facile, hein, honnêtement.
Ouais. ça c'est pareil, il y a beaucoup beaucoup de morceaux qui tombent comme ça. Ça aurait pu être Louise Attack, mais c'est pas Louise Attack.
Non, a priori c'est que des trucs, enfin ouais, quoi que c'est un site français. Mais... Iggy Pop, Lust for Life, ZZ Top, Gimme All Your Loving, Sweet the Ballroom Blitz et ABBA Dancing Queen.
Répète, alors c'est pas ABBA, c'est pas... Vas-y, refais.
Alors, Iggy Pop, Lust for Life,
ouais.
ZZ Top, Gimme All Your Loving,
non, c'est pas ça, c'est
Sweet the Ballroom Blitz
non,
sûr, et ABBA Dancing Queen.
Donc c'est Iggy Pop.
C'était Sweet the Ballroom Blitz.
Ah, parce que j'ai déjà joué un morceau qui s'appelle Ballroom Blitz et c'était pas ça du tout. Mais bon.
Je pense qu'il faudra revoir tout.
Ah ouais, mais si, ouais, d'accord. Maintenant que tu le dis, d'accord. Okay, je vois.
Okay. Parce que lui, il met la caisse à droite et lui,
oui, oui, d'accord.
Ah, mais c'est Ballroom Blitz, c'est un truc des années 70. Quoi, peut-être.
Il n'y a même pas la vidéo sur YouTube de la chanson.
Ça pourrait être. Allez, donne les propositions.
The White Stripe, Inky Thump, Stevie Wonder, Superstition, The Temptation, Papa Was a Rolling Stone et Foo Fighter, Everlong. Moi j'étais sur Stevie Wonder là. Mm. Non, c'est pas.
Non, le premier alors.
The White Stripe
Ouais, je connais pas ce morceau mais.
C'était Stevie Wonder.
C'est quoi comme morceau de Stevie Wonder?
Superstition.
Vas-y, remets le truc. Alors, Superstition, genre, je joue. J'ai encore joué tout à l'heure.
Et ouais, ça donne ton site, il est tout niqué.
Refais passer.
Ou alors, il a décalé d'un cran, tu sais.
Ah ouais, d'accord, maintenant que tu le dis. Alors, en fait, on n'entend pas beaucoup la grosse caisse.
C'est vrai qu'on n'entend pas trop.
Après, ça fait...
bah, Stevie Wonder était grossophone, hein, donc la grosse caisse, il en entendait beaucoup moins.
Non, mais ouais. Ah ouais, ça je sais, c'est Police, Roxanne.
Oui.
Mais ça, c'est, tu vois, c'est, ça s'entend
ouais,
tout de suite.
Ouais, tu l'entends.
Non. Okay, à la pause, à la pause.
À la pause.
Alors, moi, je l'entends, mais parce que j'avais
t'avais la réponse.
J'avais le titre.
Ouais, t'avais la réponse.
Mais j'avais le titre.
Ouais, t'avais complètement la réponse.
J'avais le
titre. T'avais le titre.
la dernière.
Allez.
Ultra chaud.
Non, je ne sais pas dire.
Ça se ressemble de fou quand même.
Alors, ouais. Moi, peut-être qu'avec. Pareil, c'est parce que j'ai le titre. Mais je pense que c'est ça. Mais attends. Ouais. Attends, je vais pas essayer de le chanter parce que ça va pas aller.
Mais t'as pas des propositions plutôt?
Si, si. Ouais.
Ah putain, je peux les avoir les propositions. Ah putain, je peux plus les avoir.
Ah.
Problème technique.
Ouais, non, je pourrais plus les avoir.
Ok.
C'était Toto Africa.
Ah ouais. Comme quoi, quand on entend pas le reste, tu peux pas deviner.
Ouais, mais c'est chaud.
Et ça, c'est
quand t'isoles un instrument, ouais. C'est ultra chaud.
Bah, surtout un instrument qui est pas ouais. Mélodique, harmonique.
Ouais, exactement.
Ok.
J'ai un deuxième petit jeu.
Ah,
si vous voulez le faire.
Ah bah oui.
Alors, oui. Un petit jeu qui nous vient du podcast Un bon moment de Kian Kojandi, ça s'appelle le Multi Blind Test. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a cinq chansons à découvrir, mais le problème c'est que je vais les mettre toutes en même temps.
Ah oui.
Okay. Et à chaque fois que vous en trouvez une, on l'enlèvera et puis il faudra voir si.
Ah d'accord.
Okay.
Et là, je peux jouer avec vous parce que j'aurai pas la réponse.
Ok.
Non, c'est bien ça.
On fait cinq chansons.
Ouais, on fait cinq chansons. Ouais.
Enfin, cinq chansons en même temps.
En même temps,
faire
oui.
Cinq ou six.
Non, bah fais cinq. Enfin.
Vous pouvez me donner le titre ou le...
Oui. Alors, il y a Ed Sheeran, Shape of You.
Ouais, c'est celui que j'ai repéré aussi, mais je ne connaissais pas le nom.
Là, elle est enlevée. Ah, il y a
Oasis Wonderwall, ouais.
Il y a Queen.
Oui, c'est
Queen.
Queen, je sais plus comment elle s'appelle.
Queen, ça
fait. C'était Barbie Girl.
Barbie Girl.
À quoi ?
Et là, je vais les. Comme il reste que deux.
Comme il reste que deux, faut qu'on essaie de trouver les deux avant que je mette une proposition. Qu'on a
bah, Barbie Girl.
Barbie, ouais. il est ouais. encore là.
Oui, oui, mais là, il reste que deux chansons à trouver. Okay. Donc, je laisse les deux en même temps. Okay. Il faut qu'on donne les deux. Il okay. faut qu'on arrive à identifier les deux avant que je mette un. Je
bah, l'autre, il y a.
Je l'ai. Attends, tu l'entends quoi?
Et il parle trop l'autre.
Ouais.
On l'entend au début. On verra quand ça reviendra. Il y aura du montage, ce sera moins long pour les gens qui nous écoutent. C'est un truc de rap américain.
Ah ouais, ouais, ouais. C'est Gangsta's Paradise Coolio. Non.
Ouais.
Yeah. Il est bon, hein. Il est bon, hein. Mais le mélange Barbie Girl, il prenait toute la ouais, place.
C'est clair.
Il prenait la place du truc, c'était incroyable.
Et ouais. Et puis en plus, quand tu commences à entendre une chanson,
ouais, et après, t'es focalisé. Ouais. Et c'est dur de faire
de
moins.
Les, ouais, de changer les autres.
De l'annuler.
Deuxième manche.
Allez.
Allez, deuxième manche. On aura un pull.
Oh,
c'est le bordel.
Il y a Boomfunk MC, Freestyler, je crois.
Là, j'entends de la bouillasse.
Ouais.
Non, non, mais moi, j'en ai une, là.
Donc, j'ai enlevé Boomfunk MC, Freestyler.
Il y a un U2.
Ah, il y a Scatman.
Ah ouais?
Il y a U2 là-dedans.
Non, il n'y a pas U2.
Ah merde.
Ah ouais, il y a Radiohead Creep.
Ah, c'est ça. Merci. Je pensais que c'était U2.
Là, pareil, il reste que deux chansons, faut qu'on ait les deux en même temps. Donc il y a Like a Virgin, Madonna, ouais.
En plus, Madonna, elle prend bien le
dos. Ouais, ouais.
Tout, elle prend toute la place.
Ouais.
Non. Ah, elle laisse pas la place. Hein.
Ah, c'est un peu.
Ah, c'est chaud. Hein.
Enlève Madonna.
Ah ouais, Wham.
Ouais, ah ouais, il était chaud. Ouais. Il était super bas. Hein,
ouais.
Ouais, ouais.
Il s'est mixé un peu chelou.
Encore un ou pas ?
Allez, ouais. Ouais.
Allez, un dernier. Et juste pour... comme ça, on a le temps de réfléchir aussi à notre recommandation.
Ah oui.
Parce que faut...
Ah ouais.
Ah oui, c'est vrai, on a oublié de te dire.
Ouais. Ouais. Moi, je connais le podcast. Je...
Ouais, bah, t'es un fidèle...
Bah ouais, bah ouais.
Ouais. C'est vrai ?
Ouais.
Oh, cool.
Ouais.
Bah ouais.
On te réinvitera.
Ouais, attends.
Mais il y a encore 4 manches.
Ah putain, c'est horrible. C'est vraiment un truc. C'est Ken Kojandi qui fait ça. Putain, il est vraiment fou. Ok. Bah, c'est le même. Il y a encore Creep derrière Yuen.
Ouais. Mais je la ferai aussi.
Et là, il y a Wonderwall.
Ouais, c'est...
En fait, ah, du coup, c'est la version.
Garden Lemon Tree aussi.
Ah non, c'est Lemon Tree, pardon. C'est Lemon Tree.
Il y a Careless Whisper de George Michael. George Michael.
Il y a. C'est Céline ?
Bah, il y a Céline Dion.
Ouais, ouais.
Céline Dion Titanic. Enfin, je sais pas comment elle s'appelle.
Attends. Ah ouais, c'est Céline Dion Titanic. Ah ouais, Benjamin, dis donc. T'as les oreilles pour écouter.
Moi, j'ai les oreilles.
Ouais.
Titanic, quoi.
T'as pété ? Non, c'est.
Ouais. Ouais.
Je sais pas ce que c'est. Il y en a qu'une, hein, pourtant.
Ah, il y en a qu'une.
C'est Bruce Springsteen, ça, ou un truc comme ça, non ?
Il y a moyen.
Je la vois. Non. Enfin, attends.
Ah, c'est un mec comme ça, ouais.
Groupe extrêmement connu. Connu à la même époque.
Là, je trouve pas.
Moi, je connais pas.
Ouais, le groupe, tu connais. Mais c'est Dire Straits.
Ah, ouais, d'accord. Juliette. Ah, ce morceau-là est inconnu. Ouais. Ouais.
Ah, très bien. Sympa, ce petit jeu.
Il est bien, ce jeu.
Ouais, ah, cool. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est sympa et difficile. Hein. Et je pense qu'à 6 chansons, c'est vraiment cacophonie, quoi.
Vous voulez que je vous lise le devis de la rénovation de l'appartement rue de la Chambre des Comptes ou pas d'intérêt.
Ça sera dans un podcast spécial rénovation.
Il y a un dernier truc à dire sur la tournée avant qu'on fasse les recommandations ou pas.
Sur la tournée, alors c'est plutôt moi dans mon point de vue et ma vision de la chose. C'est vraiment un truc de dingue à faire. Mais tu vois, la dernière fois, il y a un moment où tu es quand même content de rentrer chez toi et d'avoir un vrai lit, un vrai endroit où tu peux te changer, des moments où tu es tout seul, ce qui n'arrive quand même, enfin qui arrive assez rarement en tournée. Après, tu vois, dans les dernières tournées, c'était vraiment génial, l'équipe était vraiment cool. Tu as l'impression d'être en vacances avec tes potes et tu fais de la musique. Mais vraiment, le fait de se lever, devoir s'habiller à moitié accroupi, tu vois, d'avoir une valise tout le temps, ça, il y a un moment, c'est un peu chiant. J'imagine que si j'avais 20 ans, je dirais pas la même chose.
T'as pas les mêmes avantages.
Maintenant que j'ai 35 ans, je suis un peu plus vieux, un peu plus mature, un peu plus mûr. Ouais. Et j'aime bien ma vie, mon petit confort et tout
là,
ça.
Quand tu te lèves, t'as tes douleurs au dos.
C'est
tout.
Mes douleurs au dos, mes lombaires.
Il faut faire dodo à 19, la soupe.
Ah ouais, là pour le coup, faire dodo à 19, c'est au moment où.
Où tu commences.
Ouais, c'est plutôt le moment où tu commences.
Non, mais en plus, c'est vrai que c'est une vie. Tu sais, quand tu. Ah là, c'est ouf. Quand t'es petit, alors encore une fois, quand t'as 20 ans, c'est différent, mais quand tu vois un artiste, là, même comme Johnny, où le mec, jusqu'à 60 balais, il faisait ça, tu dis, moi, déjà, j'ai pas envie de le faire à cet âge-là. Bon, après, pour 15 millions, peut-être, mais...
Oui, non, mais Johnny, il n'était pas dans un bus où il était accroupi, hein.
Oui, mais tu vois, ne serait-ce que devoir tenir toute la nuit, de ne pas être chez toi. Et Johnny, il avait 14 enfants, c'est une vie d'artiste.
Oui. Ouais, c'est pas simple.
Si tu t'organises bien, tu peux quand même faire du sport tous les jours. Tu peux dormir longtemps. Tu peux dormir beaucoup de temps dans la journée. Tu manges quand même relativement très bien. Hormis le fait de te coucher forcément un peu tard, plus ou moins tard suivant les personnes, c'est pas une vie compliquée. C'est juste que effectivement, tu dors pas dans un super lit, tu dors pas hyper longtemps. Mais bon, c'est pas compliqué. Hein. Et puis t'es quand même censé être avec des mecs à qui tu t'entends bien. Et,
ouais.
Tu vois. Voilà, voilà.
Ok.
Bah moi, on passe aux recommandations.
Je voulais que tu le dises.
Et je fais le clap de recommandations. Clap. On va prendre qui ? Tu veux y aller en premier ?
Ouais. Non, c'est juste que j'attends qu'il...
Ah ouais.
qu'on soit débarrassé.
On s'en débarrasse. Ouais. Vas-y, Julien, ta recommandation ?
Je n'ai pas réfléchi.
Moi, je vais donner une recommandation. Alors là, ça va être plutôt matériel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez.
Une clé de 12.
Franchement, c'est un bon hyper... marteau.
Ça sert toujours. De...
Voilà. Roborock, ça vous dit quelque chose, non ?
Roborock. C'est une chanson des Daft Punk. Ah oui, non, c'est les aspirateurs robots.
C'est un aspirateur robot. J'ai acheté un Roborock et c'est
quoi,
trop bien.
S7, S9
Le 8.
S8
S8, non, S8. S8, ouais. La suite. Et au final, c'est trop trop bien. Ton robot, il vient dans ta maison, il te scanne tout ton étage en 3D et il te lave, t'aspire comme un robot normal, un robot aspirateur. Et donc tu peux programmer. Donc moi, il passe toute la nuit, il va faire ta surface et il est vraiment intelligent.
C'est-à-dire, c'est genre, il voit une chaussure, il va détecter que c'est une chaussure, il va pouvoir passer.
Il va la ranger ?
Non, il ne va pas la ranger.
Putain, non plus. Il fait chier.
Mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. C'est un petit peu cher, mais ça remplace, ça remplace une femme.
Genre.
Merde, non. Bon, ça, on l'enlève.
Genre, ça coûte combien ?
On l'enlève. Je crois que c'est 500 balles. C'est quand même cher. Mais nous, on avait une. On avait une femme de ménage qu'on a réduit les heures parce que, économiquement, on a réduit. Ben, on a pris ça. Tu rentres carrément dans tes frais.
C'est le petit robot rond là qui.
Ouais. Okay. Ouais, mais c'est pas. C'est vraiment un bon robot.
Ouais. Ok.
Il aspire et il lave. C'est ça.
Il aspire et il lave.
Ouais. Comme celui-là.
Ouais, carrément.
Et là, il est en train de montrer Céline du doigt.
Et par exemple, quand il arrive sur un tapis, il va lever sa serpillière, il va passer juste en aspirateur, et après le tapis, il va rebaisser sa serpillière.
Okay. Enfin, je pensais que tu disais, il va lever le tapis pour aspirer en dessous.
Non.
Putain, il est bon.
Non, mais honnêtement,
ce qui fait chier, c'est qu'il ne monte pas les escaliers. Enfin, c'est con, mais.
Par contre, il ne tombe pas des escaliers.
C'est déjà ça.
Si tu as plusieurs étages, tu peux faire un plan par étage. Mais d'ailleurs, c'est peut-être plus cher que 500 balles. Ça dépend de ta version. Parce que tu as plusieurs versions.
Ouais, puis
tu as
la version avec la station de recharge.
Ouais, tu as une station de recharge aussi qui peut le laver.
Comme tu dis, en complément d'une femme de ménage.
Ouais, carrément.
Si tu peux déjà avoir une femme de ménage. Ne serait-ce qu'elle, elle commence, elle le met au premier étage, et puis après, elle le met au deuxième, et puis elle le redescend.
Il capte les pièces. Ça veut dire que, genre, après manger, sur ton appli, tu fais programme après manger. Il sait où est ta salle à manger. Il vient, il ramasse tout et il rentre à sa base. Tu vois. Non, mais c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas si mal.
Ok.
Putain, s'il raye pas ta voiture, c'est mieux qu'une femme. Quoi.
Ah bah ouais. Carrément.
Yann.
Yann, vas-y.
Alors moi, je reste dans le même thème que les tournées. Et j'ai lu cet été. Alors ça commence à faire un petit moment là, mais un truc de. Que Amandine avait proposé
les lettres
sur le podcast, les correspondantes Ben Mazuet et Grand Corps Malade. Et donc j'ai lu ça cet été et c'était vachement bien justement pour parce qu'il parle de tournée, il parle de la vie en tournée et de la vie quand tu rentres, du rapport de l'artiste aux gens qui sont pas artistes, à la famille et tout ça. Et c'est vachement, vachement bien parce que moi, je me suis retrouvé beaucoup là-dedans. Alors même si je ne suis pas l'artiste qui part en tournée, je suis l'artiste qui accompagne l'artiste. Mmh. Donc, je suis moins exposé que ça. Mais je me suis retrouvé pas mal dans ces trucs-là et c'est vachement cool. C'est vachement sympa. Et ça parle de la vie d'un artiste un petit peu au jour le jour. Aussi, les réseaux sociaux, on n'a pas parlé, mais c'est quand même très important et très il y en a beaucoup tout le temps partout en ce moment c'était sympa de lire ce truc là.
Donc en fait tu recommandes la même chose qu'Amandine.
Je recommande la même en fait je recommande le truc qu'Amandine a recommandé parce que comme elle l'a recommandé on l'a lu et comme je l'ai lu je me suis dit c'est vraiment cool elle a vraiment raison. Bisous Amandine.
Okay.
Maman de bisous.
Je peux vous donner deux trucs. Un podcast qui est aussi en vidéo sur YouTube qui s'appelle Small Talk, qui est produit par Combini. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Combini, ils font plein de trucs. Là, c'est quelque chose qui est présenté par David Castello-Lopez, qui est un humoriste qu'on voit. Enfin, vous connaissez peut-être certains trucs de lui. Et chaque fois, il reçoit un artiste. Il parle pendant une heure, mais pendant cette heure-là, il ne parle pas de ce pourquoi l'artiste est connu. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Small Talk. Tu peux parler de tout et ils vont parler de tout et de rien, mais quasiment jamais de ce que l'artiste fait, sauf évidemment 15 secondes pour dire oui, bon, tu sors un album, c'est cool, allez l'acheter. Puis après, on parle d'autre chose. Donc il y a ça. Et un deuxième truc, là, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est Escape Game ou les choses comme ça, on a commencé à jouer à une série de jeux qui s'appelle Exit, que tu trouves dans tous les furets, la Fnac, les conneries comme ça. Où c'est une sorte d'escape game, mais que tu fais chez toi. Donc, avec avec des énigmes à trouver, des trucs à lire, à découper ou machin. Et on passe en général un bon moment. C'est logiquement entre 1h et 90 minutes. Le premier qu'on a fait, on a mis 3 jours.
et on était très. Tu peux l'étaler.
J'avais
vu ça dans Qui veut être mon associé, c'est pas ça
qui, je sais pas ce que c'est, qui veut être
mon associé. C'est le truc d'investisseur, là. T'achètes ça sur internet et tu dois découvrir genre un meurtre
Ouais, bah ça
un truc comme ça, et tu as une interaction avec Internet un peu.
Ah, bah, là, pour l'instant, c'est que papier, le truc. Seul problème, c'est que tu peux le faire qu'une fois. Parce que, bon, déjà, parce que tu connais la Solus.
Bah oui.
Et aussi parce qu'il y a des fois des trucs à découper, à plier, à assembler, à machin. Donc, tu sais le truc.
Ouais, bon,
donc, ça, là-dessus, c'est un peu dommage. Bon, chaque truc vaut 16 balles. Et puis. Okay. C'est. Et tu vois, tu passes un truc bien. On a déjà fait deux, c'est cool. Deux qui nous attendent et moi, je suis content de pouvoir.
Et je rebondis sur ce que tu disais parce que ça m'a fait penser à un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps justement avec Céline. On était à côté d'un escape game et on a été lancer des haches.
Ouais,
voilà.
Ouais, c'est cool.
Je sais pas si, voilà,
ouais, on a déjà fait. Enfin, moi, j'ai déjà fait.
On s'est pris une heure pour lancer des haches. C'était original, on va dire.
Ouais.
Voilà.
Et d'où, quand on l'a fait, j'ai fait avec des potes et on voulait lancer le concept de viande hachée. Donc, c'est un truc où c'est la même chose que tu lances des haches, sauf qu'en fait, défiles des morceaux de viande et en fait, tu manges ce que tu arrives à chasser. Ouais. Quoi. Tu le lances sur le truc et si tu arrives à le faire tomber, tu avais le droit de le faire cuire et de le manger. Quoi.
Bonne idée.
Voilà. Yann, est-ce qu'on te retrouve quelque part? Est-ce que, bah déjà, si les gens veulent se lancer à la batterie, est-ce qu'ils t'appellent pour prendre des cours? Est-ce que ça sert à rien parce que tu veux pas plus de monde?
Non, mais je peux. En fait, je donne pas de cours privés.
Ouais.
Parce que je suis dans des conservatoires communaux. Donc je. Mais bon, pourquoi pas? Après, c'est pas mon. Voilà, on m'appelle surtout c'est pour faire des concerts. Ouais.
Et je sais même pas si t'as un Insta ou un truc comme ça où les gens pourraient aller voir ce que tu fais.
Si. Mon Insta c'est Yann Solo.
D'accord.
La référence à. Voilà. Yann Solo.
D'accord.
Voilà. On peut voir des trucs, des vidéos, des machins.
On le mettra en description.
On le mettra en description, ouais.
Ok, ça marche. Eh bien, parfait. Merci beaucoup.
Bah, merci de.
Avec plaisir. Merci à vous.
C'était très bien.
Yes.